France Culture, il est 18h, le journal, Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Quand le Brexit aura-t-il lieu? Theresa May tente d'obtenir un délai, mais Emmanuel Macron, qu'elle rencontre à l'instant, semble moins conciliant qu'Angela Merkel. On fait le point tout de suite avec Louise Baudet à l'Élysée. Les relations commerciales entre Bruxelles et Washington se crispent à nouveau. Donald Trump réclame la fin des subventions européennes à Airbus, accusant l'Union européenne de profiter des États-Unis. En France, 220 parlementaires mobilisés contre la privatisation d'ADP veulent lancer un référendum d'initiative partagée. Il leur faut encore l'aval du Conseil constitutionnel et le soutien de 4,5 millions de citoyens. Explication d'Anne Fauquemberg. Comment lutter contre les infox, les informations erronées? C'est une préoccupation forte de la presse et le dossier de ce journal. Quel délai accordé au Royaume-Uni pour lui permettre d'organiser sa sortie de l'Union européenne? Un nouveau sommet européen est organisé demain à ce sujet et aujourd'hui, la première ministre britannique s'est rendue à Berlin et Paris pour tenter d'amadouer ses partenaires. Theresa May arrive à l'Élysée, où vous vous trouvez, Louise Baudet, mais Emmanuel Macron a bien l'intention de poser ses conditions.
Effectivement, ici à l'Élysée, on attend Theresa May sous un soleil nettement moins radieux qu'à Berlin ce midi et dans une ambiance peut-être moins chaleureuse. Car face à Theresa May, Emmanuel Macron entend afficher sa fermeté. Pas question de laisser la situation s'éterniser. Un report d'un an, ce serait trop long, dit-on ici à l'Élysée. Pas question non plus de laisser les Britanniques perturber le fonctionnement de l'Union s'ils devaient y rester, en cas donc de nouveau report. Ce nouveau report, il est, vous l'avez dit, réclamé par Theresa May, mais il ne peut être envisagé qu'avec des contreparties. Partie très ferme, affirme l'entourage du président français. D'abord, la garantie que le Royaume-Uni ne bloquera pas l'adoption du budget pluriannuel de l'Union européenne et qu'il ne perturbera pas la désignation du futur président de la Commission. Bref, Emmanuel Macron en a assez du feuilleton britannique et il assume d'avoir une différence d'appréciation avec la chancelière allemande Angela Merkel, qui juge ce soir possible un report du Brexit jusqu'à début 2020 et qui a promis de se battre jusqu'à la dernière heure pour éviter un no deal. Merkel, good cop, Macron, bad cop, décrivait ce matin la presse britannique.
En tout cas, au-delà des postures de chacun, Louise, on voit mal les 27 refuser un report demain.
Oui, difficile d'imaginer qu'Emmanuel Macron notamment la joue à la De Gaulle qui en 1963 et 1967 s'était opposé à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne. Demain, la décision d'accorder ou non un nouveau report sera prise à l'unanimité et qui osera dire aux Britanniques « Messieurs, partez les premiers ». La priorité partagée par les 27, c'est d'éviter le scénario d'un divorce brutal en fin de semaine et on voit qu'à Paris comme à Berlin, un nouveau report est désormais l'hypothèse la plus crédible. Hypothèse certes assortie de conditions. Il faut, point essentiel, que Theresa May trouve un plan B, soit un accord avec les travaillistes, son opposition, soit un nouveau référendum, soit des élections anticipées. En tout cas, autre chose que le scénario du film Un jour sans fin, où le héros est chaque matin contraint de revivre encore et toujours la même journée.
Louise Baudet en direct de l'Élysée. Le FMI redoute un sérieux choc pour l'économie britannique en cas de Brexit sans accord. Ce scénario entraînerait de fortes perturbations commerciales, prévient le Fonds monétaire international, et un recul marqué du produit intérieur brut. Le FMI qui vient encore d'abaisser ses prévisions de croissance pour la zone euro. Le PIB de l'Union monétaire ne devrait croître cette année que de 1,3%. Pas très rassurante non plus ces menaces qu'adresse le président américain à l'Union européenne. Donald Trump se dit prêt à mettre en place de nouveaux tarifs douaniers si l'Europe ne met pas fin aux subventions qu'elle accorde à Airbus. De son côté, la Commission européenne a commencé à préparer d'éventuelles représailles contre les subventions américaines accordées à Boeing, tout en disant rester ouverte à la discussion. La correspondance de Grégory Phillips à Washington.
Ça fait des années que l'Union européenne profite des États-Unis, vitupère Donald Trump dans un tweet matinal. Et ça va bientôt s'arrêter. Le président américain ajoute que son pays va imposer des taxes sur les produits européens à hauteur de 11 milliards de dollars, mais sans préciser quand et comment la menace sera mise à exécution. Au cœur de ce nouveau bras de fer, les subventions que l'Union européenne et les États-Unis accordent chacun de leur côté à Airbus et Boeing. Le représentant américain au commerce juge qu'elles sont pénalisantes pour le constructeur aéronautique américain qui en plus connaît des difficultés actuellement avec son programme 737 Max. Hier, Robert Lighthizer avait même publié une première liste de produits européens susceptibles de faire l'objet de mesures de rétorsion. Ça va de l'huile d'olive au steak d'espadon en passant par les fromages ou les fruits. Dans ce catalogue, il n'est pas fait mention des automobiles fabriquées en Europe, pourtant dans le viseur de la Maison-Blanche, et que Trump promet régulièrement de taxer lourdement.
Les Israéliens votent aujourd'hui pour élire les 120 députés de la Knesset et on devrait savoir ce soir si le Premier ministre Benjamin Netanyahou est bien placé pour former une nouvelle coalition gouvernementale ou s'il doit céder sa place à Benny Gantz à la tête d'une formation de centre droit. Étienne Monin est allé suivre le déroulement du vote dans une des grandes colonies de Cisjordanie, Efrat.
Pour Shraga Blum, cette élection pourrait ressembler à un jeu de chaises musicales. Ce Suisse vit depuis 13 ans dans la colonie des Frates. Il vote à droite et cette année, dit-il, le choix est délicat.
Il n'a jamais été aussi compliqué pour une raison très simple, c'est qu'il y a une partialisation des partis. Surtout à droite.
À la droite du Likoud, quatre partis nationalistes ou identitaires pourraient siéger. L'offre s'est élargie et le Premier ministre a compliqué l'équation.
Il y a deux thèses qui s'affrontent. La thèse tenue par le Premier ministre qui dit qu'il faut absolument que le Likoud soit le plus grand parti pour que le président lui donne la préséance pour la formation du gouvernement. Et puis il y a la thèse inverse qui dit que si tout le monde vote pour le Likoud, enfin les gens de droite, à ce moment-là, il y a des petits partis de droite qui risquent de ne pas franchir le seuil pour former une coalition.
Dans la dernière ligne droite, pour tenter d'emporter cet électorat, le Premier ministre a promis l'annexion des colonies, mais la ficelle est un peu grosse pour plonger, dit Lévy, installé en Cisjordanie depuis 25 ans.
Non, je vois ça comme une décision politicienne. Ses conseillers ont sans doute estimé que ça l'aiderait dans les urnes, mais personne n'en tiendra compte, sauf peut-être les Européens et les Américains démocrates.
Efrat est une colonie majoritairement religieuse, modérée. Aux dernières élections, elle avait voté massivement pour un parti national religieux, dont un bord s'est encore radicalisé.
Étienne Monin à Efrat, colonie israélienne en Cisjordanie. Des milliers d'étudiants ont à nouveau manifesté dans les rues d'Alger aujourd'hui, signe qu'ils rejettent la nomination d'une figure du système Bouteflika comme président par intérim. Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, prend les rênes du pays pour 90 jours. Son portrait par notre correspondante à Alger, Leïla Berato.
Abdelaziz Bouteflika a 82 ans. Abdelkader Ben Salah, lui, en a 78. Le nouveau président par intérim est un pur produit du système algérien. Ancien journaliste, il est élu député de la région de Tlemcen en 1977, puis il devient ambassadeur. 20 ans plus tard, il participe à la création du RND, le deuxième parti du pays, très proche du FLN. Son parti remporte les élections législatives et Abdelkader Ben Salah prend la tête de l'Assemblée populaire nationale en 1997. 5 ans plus tard, son mandat s'achève et il est nommé sénateur par le président Abdelaziz Bouteflika. Il est à la tête du Conseil de la Nation depuis cette année 2002. Abdelkader Ben Salah, lui aussi affaibli par la maladie ces dernières années, est un fidèle d'Abdelaziz Bouteflika. Il est aussi proche de l'ancien Premier ministre Ahmedou Yahya. Pendant 90 jours, il a désormais les rênes de l'Algérie, mais ses prérogatives sont limitées. Il ne peut pas nommer de gouvernement, réviser la constitution, dissoudre le Parlement ou appeler à un référendum. Il devra cependant organiser une élection présidentielle. Mais le président par intérim a peu de chances de calmer la contestation. Son nom était déjà décrié dans les manifestations. 150 parlementaires d'opposition ont boycotté la cérémonie de ce matin et certains qui étaient présents ont quitté la salle dès la prise de parole d'Abdelkader Ben Salah en expliquant « Nous prenons acte de la démission du président mais nous refusons de valider la prise de pouvoir du président par intérim ».
La conférence nationale interlibyenne prévue dimanche n'aura pas lieu. Elle est reportée sine die à cause des combats qui font rage au sud de Tripoli. Des combats qui ont fait 47 morts et 181 blessés ces derniers jours, selon le décompte transmis par l'Organisation mondiale de la santé. La Russie espère devenir la première puissance économique et militaire dans l'Arctique. Très active depuis quelques années déjà à proximité du cercle polaire, sur le plan énergétique et militaire, elle annonce son intention d'accentuer encore ses efforts de développement dans cette région à l'occasion du Forum international sur l'Arctique organisé à Saint-Pétersbourg. Le Kremlin veut profiter du réchauffement climatique, mais il doit aussi rassurer ses voisins sur les problématiques écologiques et sécuritaires, Claude Bruyot.
10% des investissements russes sont consacrés au développement de projets situés en zone arctique et cela va s'accentuer, a précisé Vladimir Poutine aujourd'hui en séance plénière. Le président russe a pris notamment l'exemple du développement de Yamal-Expegué à 4500 km au nord-est de Moscou, le nouveau terminal gazier à l'embouchure de l'Ob qui a permis notamment l'ouverture de la route du Nord pour les supermétaniers à destination de l'Asie du Sud-Est. Grâce au réchauffement climatique, ce nouvel axe commercial plus rapide va permettre une diminution des coûts et rendre encore plus compétitive l'offre de gaz russe. Pour couper court à toute polémique sur les risques écologiques inhérents à ce type d'installation en zone arctique, Vladimir Poutine a assuré que tout investissement dans ces zones s'accompagnerait de garanties en matière de protection des écosystèmes, qualifiés par le président russe lui-même de très fragiles dans ces régions. Le second point sensible sur lequel le maître du Kremlin était attendu par les 7 autres pays membres du Conseil arctique et notamment par les États-Unis concernait le renforcement de la présence militaire russe à proximité ou au-delà du cercle polaire. Depuis plusieurs années déjà, la Russie a réactivé quelques-unes de ses bases abandonnées après la chute de l'URSS. Et là, c'est le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a tenté de rassurer l'auditoire en insistant sur le fait que la Russie ne faisait que garantir la sécurité de ses frontières sans menacer ses voisins. Une posture habituelle qui nécessitera toutefois une série de rencontres bilatérales à venir pour espérer convaincre davantage.
Une image comme on en voit peu ce midi à l'Assemblée nationale, réunie sur la même estrade des représentants de l'opposition, de la France insoumise jusqu'aux Républicains. Ils ont rassemblé plus de 185 signatures, le seuil minimum pour lancer une procédure de référendum d'initiative partagée. Ce soir, ils en sont à environ 220 signatures. Introduite dans la Constitution en 2008, cette procédure n'a jamais été utilisée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris, qui doit être votée en deuxième lecture jeudi à l'Assemblée, qui a fait naître cette union sacrée. Bonsoir Anne Fauquemberg. Vous étiez à la conférence de presse de l'opposition tout à l'heure.
Oui, c'est le député socialiste Boris Vallaud qui a introduit cette conférence de presse. Face à la surdité du gouvernement depuis des semaines, la convergence entre les partis d'opposition a fini par s'imposer.
Nous avons des députés et des sénateurs de toutes les oppositions qui se sont réunis aujourd'hui pour engager cette procédure et qu'il soit demandé aux Français, dès lors que nous avons réuni leurs signatures, s'ils veulent ou pas rendre ces aéroports insusceptibles de privatisation en leur reconnaissant, comme le fait la Constitution de 1946, le caractère de monopole naturel. Et un monopole naturel ne peut pas faire l'objet d'une privatisation.
Cette union sacrée des parlementaires n'est qu'une première étape. Les députés doivent aussi réunir le soutien de 4 500 000 électeurs ces prochains mois. Ce n'est pas rien. Et entre-temps, le Conseil constitutionnel doit aussi valider la question. Mais dans l'élan du grand débat, Jean-Michel Clément du groupe Liberté et Territoires est optimiste.
Les Français ont montré un attachement très fort à ce qui est les éléments structurants du pays, notre capacité à vivre ensemble, mais aussi la force d'attractivité de la France. Qui imaginerait privatiser le Louvre? Qui imaginerait privatiser d'autres lieux symboliques, le Mont-Saint-Michel ou la Tour Eiffel?
À La République En Marche, on ne se laisse pas impressionner. Roland Lescure à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée.
C'est un peu le consensus archéo-gaulo-communiste. La manière dont on gère l'économie, il est temps de la faire passer dans le 21e siècle. En attendant, moi je veux que la France avance. On va voter cette loi, si tout se passe bien, jeudi, et ensuite on va avancer.
Le temps presse, c'est vrai. Pour que le RIP puisse se déployer, il faut aussi que le Conseil constitutionnel tranche avant la promulgation de la loi Pacte.
Anne Fauquemberg, en direct de l'Assemblée nationale avec Nicolas Mathias à la technique. À l'issue du grand débat, le président va prendre des décisions immédiates, puissantes et concrètes, promet Édouard Philippe. Après une première restitution hier au Grand Palais, le Premier ministre s'est rendu cet après-midi à l'Assemblée pour dire ce qu'il retenait de ces 3 mois de prise de parole et de contribution. Pour Édouard Philippe, ce qui s'est exprimé à travers ce grand débat national, c'est un puissant besoin de transformation. Et le chef du gouvernement veut travailler à rapprocher les Français de leurs représentants.
La première exigence, elle prend la forme d'un mur de défiance qui sépare beaucoup de Français de ceux qui les représentent et influe sur leur vie. À part les maires, pas une seule organisation, pas une seule catégorie d'élus n'échappe à cette défiance. Les pratiques qui ont suscité ces réactions ont cessé depuis longtemps. Le financement de la vie politique est considérablement assaini et il est injuste d'incriminer les élus d'aujourd'hui pour les errements d'hier. Mais il faut le constater humblement, la défiance demeure. Elle a prospéré sur des échecs collectifs, comme la permanence d'un chômage de masse et le blocage progressif de l'ascenseur social. Pour répondre à cette défiance, nous devons construire une démocratie plus délibérative. Cette forme de démocratie participative reste à construire au niveau national, en nous inspirant notamment du succès du grand débat. Mais n'ayons pas peur dans cette Assemblée de rappeler que si une plus forte association de nos concitoyens est nécessaire, rien ne remplacera la démocratie représentative.
Le Premier ministre Édouard Philippe qui interviendra demain devant le Sénat. Le Sénat où une rencontre entre des sénateurs et une délégation de gilets jaunes a été annulée à la dernière minute. Explication avancée, un risque de trouble à l'ordre public. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
C'est la venue inopinée d'Éric Drouet, figure contestée du mouvement des gilets jaunes, qui a entraîné l'annulation de cette rencontre.
Oui, c'était une réunion prévue à 10h ce matin, mais à 9h40, coup de téléphone, raconte le gilet jaune Éric Drouet, les services de la présidence du Sénat leur annoncent que la réunion n'aura pas lieu.
Ouais, ça a été annulé 20 minutes avant. Ils ont eu peur de la tournure médiatique que ça prenait, en fait.
À l'origine de cette réunion, un collectif qui se fait appeler Opération Spéciale Gilets Jaunes. Il avait demandé à être reçu par le Sénat pour parler de la privatisation d'Aéroports de Paris, à laquelle il s'oppose. Et l'un des représentants de ce collectif expliquait tout à l'heure que tout avait été fait dans les règles.
Ils étaient au courant déjà depuis jeudi dernier que M. Éric Drouet serait présent avec d'autres personnes. Et ils nous ont annulé ce matin, vu la tournure médiatique que ça prenait. Le président du Sénat qui a fait une interview tout à l'heure, qui a dit que Bruno Le Maire avait contacté le Sénat ce matin. Donc on pense que ça vient de là. Voilà.
En réalité, confessait cet après-midi plusieurs sénateurs, il semble que la présence d'Éric Drouet au sein de cette délégation de Gilets jaunes n'aurait été signalée que très tard hier soir. Et la présidente de la commission spéciale chargée de la privatisation d'Aéroports de Paris n'aurait été prévenue que dans le courant de la matinée, tout comme le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a effectivement passé un coup de fil ce matin à la présidence du Sénat pour exprimer son indignation. Résultat, les sénateurs ont fait machine arrière. Éric Drouet, lui, n'en est pas à son coup d'essai pour faire parler de lui médiatiquement. Début janvier, il est soupçonné d'avoir sciemment participé à une manifestation interdite, provoquant son arrestation et son placement en garde à vue, alors que la mobilisation des Gilets jaunes était en être flux.
Stéphane Robert. En difficulté financière et en perte de crédibilité, la presse s'interroge sur son avenir. Journalistes et chercheurs du monde entier sont venus débattre ces derniers jours au 13e Festival international de Pérouse en Italie. Ils se sont demandé comment trouver de nouveaux modèles économiques, quelles relations entretenir avec les grandes plateformes comme Google et Facebook. Et un autre enjeu central qui a été longuement abordé, Catherine Pétillon, c'est cette question : comment lutter contre l'inflation des infox ?
Les médias venus du monde entier témoignaient d'une même préoccupation, outiller les rédactions pour qu'elles endiguent la propagation d'informations fausses ou erronées. Une tâche d'autant plus difficile que la course est double. Il s'agit non seulement d'être en mesure de vérifier la teneur des contenus propagés sur les réseaux sociaux, mais aussi d'être techniquement capable de suivre les évolutions de la technologie. Sans compter que de plus en plus, les contenus en question se partagent sur des réseaux fermés comme WhatsApp. À l'agence Reuters, Hazel Baker est à la tête d'une équipe de 12 personnes chargée de vérifier les photos et vidéos postées par des utilisateurs des réseaux sociaux et notamment d'identifier lesquelles sont sorties de leur contexte. Mais la rédaction se prépare déjà à l'arrivée de vidéos truquées grâce à l'intelligence artificielle, les deepfakes.
Il existe désormais une technologie qui permet aux gens de recréer une vidéo de toute pièce à partir de n'importe quelle personne, situation ou parole. Et les possibilités d'utiliser ça sont assez étonnantes quand on y pense. Alors, on n'a pas encore vu de deepfake concernant d'importants sujets d'actualité, mais on doit se préoccuper de la technologie qu'il y a derrière ça. Nous avons lancé un programme de recherche en créant nos propres vidéos. Cela nous a permis d'améliorer nos connaissances sur le domaine et cela nous a aussi permis d'alerter la rédaction, car nous avons vu de nos propres yeux comment une vidéo peut être truquée. Cela nous a obligés à travailler sur la manière dont nous pourrons évaluer ces contenus.
Ce seul exemple illustre combien sont complexes les enjeux liés à la création, la diffusion, puis la vérification de mésinformations. Une riche étude pour le Parlement européen, publiée le mois dernier, a recensé les dimensions technologiques, sociales, légales et éthiques du phénomène. Pour le contrer, il préconise entre autres choses de favoriser une recherche et une approche multidisciplinaire. Alexandre Alaphilippe est le directeur de l'ONG EU Disinfo Lab, spécialisé sur le sujet et l'un des auteurs de ce rapport.
Aujourd'hui, on a souvent, malheureusement, des journalistes qui ne sont pas très pointus sur les questions vraiment technologiques de développement d'outils. En même temps, on a des personnes qui ont des capacités technologiques qui ne comprennent pas forcément comment un journaliste fonctionne, des académiques qui travaillent sur du temps long et qui ont besoin d'énormément de données pour pouvoir produire des études avec des méthodologies solides, etc. Et on a aussi des fact-checkers qui doivent travailler sur des temps très courts. Donc aujourd'hui, il faut absolument que toutes ces experts travaillent ensemble. Le projet We Verify, sur lequel on travaille avec l'AFP, avec Deutsche Welle, mais aussi avec des entreprises informatiques en Grèce et en Bulgarie, c'est d'arriver à comprendre comment on peut imbriquer toutes ces techniques ensemble et de produire quelque chose qui sert aux journalistes, à la société civile pour vérifier de l'information.
Reste que traquer les informations de mauvaise qualité restera un exercice vain sans un effort parallèle pour restaurer la confiance dans les médias.
Catherine Pétillon à Pérouse, en Italie. Et puis une nouvelle crise au sein de la Web TV Le Média. Alors qu'une assemblée générale doit élire ce soir une nouvelle direction, la journaliste Aude Lancelin annonce sa démission de la présidence de l'entreprise en dénonçant un putsch. Pour demain mercredi, Météo France prévoit des pluies faibles sur le tiers nord de l'Hexagone et des averses orageuses sur la moitié sud, surtout sur le sud-est. Le matin, il fera entre 3 et 8 degrés en général. L'après-midi, maximum 10 à 17, jusqu'à 19 sur le Languedoc-Roussillon et la Provence. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.